France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Ce matin, donc, en public et en direct du Conservatoire Pierre Barbizet pour ce week-end de France Musique à Marseille, qui, entre autres qualités, est probablement la ville qui fait le plus pour l'opéra français en général et l'opérette en particulier. Pour en parler, je reçois Maurice Xiberas, directeur de l'opéra et du théâtre Odéon. Simone Burle, infatigable chanteuse et fantaisiste d'opérette. Et enfin, Dominique Desmond et Julie Morgan qui joueront bientôt là-haut à l'Odéon. Ils sont venus nous interpréter quelques morceaux d'opérette. Tout ça se passe à Marseille, vous le savez, la ville du pont transbordeur.
Sur le vieux port de Marseille, il est un coin plein de fraîcheur. Où la vue est sans pareil, c'est le pont transbordeur.
Idéal. Ça régale, la brise fait des
rangs. Ah, quel bonheur sur le pont transporteur où le vent souffle en venant des îles.
Quand il fait chaud, on est bien mieux là-haut que dans toutes les rues de la ville.
Et puis aussi, on peut le dire entre nous, c'est un endroit où les fronts jaloux peuvent sans peur s'aimer à la hauteur qu'on est bien sur le pont transporteur. Ce pont-là est très utile, surtout aux tendres amoureux, car ils y sont bien tranquilles, nul ne s'occupe d'eux.
Ils s'égrinent, ils se disent, des mots doux qui les rendent heureux.
Ah, quel bonheur sur le pont transbordeur, où le vent souffle en venant des îles. Quand il fait chaud, on est bien mieux là-haut que dans toutes les rues de la ville. Et puis aussi, on peut le dire entre nous, c'est un endroit où les fronts s'adouent, un peu sans peur, s'aimer à la hauteur, qu'on est bien sur le fond. Quand la nuit est en son voile, on voit un merveilleux tableau, sous un ciel brillant d'étoiles, qui scintille dans l'eau.
Tout s'éclaire, les lumières,
à tout vous dire que c'est beau. Ah, quel bonheur sur le pont
transbordeur, où la vague nous envoie la vie.
Bonjour.
Le pont transbordeur, il a disparu, je pense, avant la naissance de toutes les personnes ici présentes, mais il est resté quand même dans les mémoires marseillaises.
Hein. Ah oui, dans les mémoires marseillaises, effectivement, au même titre que la sardine qui a bouché le port de Marseille.
Voilà.
Le pont transbordeur, oui, c'est pas une légende à Marseille, c'était vraiment un outil. D'abord, c'était utile parce qu'on passait d'une rive à une autre
du vieux port.
Du vieux port, il n'y a pas de tunnel, et puis les gens allaient plonger depuis le premier,
et voilà.
Premier étage.
Mais en tout cas, Marseille, ça c'est un exemple parmi des centaines d'autres, et probablement la seule ville de France après Paris, à avoir produit un musical, un répertoire de chansons sur Marseille, une quantité d'opérettes, c'est quelque chose d'assez étonnant en fait.
Oui, ça faisait partie du quotidien des Marseillais, que la Canebière c'était une avenue de théâtre, il y avait des cinémas, mais il y avait
ah oui,
des théâtres.
C'était un quartier de théâtre, ah oui.
Ah oui, il y avait dans tous les anciens cinémas en fait, c'était des musicals, des théâtres de revues, des théâtres d'opérettes, et puis ça jouait tous les jours, matinée, soirée.
Voilà, et alors il en est resté ce répertoire fabuleux, évidemment, qu'on met à l'honneur ce matin, et demain aussi Laurent Vallière qui parlera aussi d'opérette marseillaise. Mais en tout cas, je suis très heureux de vous recevoir, Maurice Xiberas, qui dirigeait l'opéra, le très bel opéra de Marseille, mais aussi le théâtre Odéon. Parce que l'autre miracle, c'est que malgré la désaffection du genre, Marseille reste la ville, la seule en France à avoir encore une vraie saison d'opérette. Tout ça s'est passé dans une époque où le genre disparaissait un peu partout en province. Comment vous expliquez que là aussi ce petit miracle de la survie et de la longue vie de l'opérette à Marseille?
Alors j'allais dire que comme tout, c'est une décision politique. À l'époque, le politique qui était en place a décidé de garder ce théâtre de Marseille et de le...
Et le théâtre Odéon, donc.
Voilà, le théâtre de l'Odéon et d'en faire un théâtre de divertissement. Divertissement, ça voulait dire opérette. On avait un maire, qui était M. Jean-Claude Gaudin, qui adorait l'opérette également parce qu'il avait été abonné lors de sa jeunesse et puis...
lui-même.
Mère également était abonné. Et donc, il tenait à avoir une saison d'opérette et puis ça continue et on est tous heureux de défendre cet art qui est un art national. Et on le dira jamais assez. Je sais que vous défendez ça.
Oui. Je le défends aussi, mais en tout cas, je suis heureux que vous soyez là aussi aujourd'hui avec nous, Maurice Xibéras, parce que vous avez une carrière de chanteur qui vous a mené dans différents endroits de France, mais finalement, vous êtes revenu, si j'ose dire, à Marseille. Vous êtes un vrai Marseillais de cœur, d'histoire, et vous avez, je crois, même un peu grandi dans ce conservatoire où nous sommes ce matin.
Ah oui, tout à fait. J'ai connu l'illustre Pierre Barbizet, bien entendu, avec j'ai des tas d'anecdotes. Et puis, j'ai fait mes classes de solfège, de chant, d'art lyrique, de contrepoint, enfin tout ce qu'on fait, le parcours pour être essayer d'être un bon musicien.
Ce lieu magnifique, hein, je tiens à le dire, là on est, je crois, dans l'ancienne bibliothèque municipale, qui est une partie de ce conservatoire, au Palais Carly. Hein.
C'est ça, le Palais Carly. Alors là, c'était un peu un endroit interdit pour nous, on n'y avait pas accès, parce que c'était, il y avait les archives municipales et la grande bibliothèque, mais j'ai découvert ce lieu beaucoup, beaucoup plus tard, c'est elle.
Voilà, en tout cas, on est heureux d'être tous ensemble ce matin avec le public et on va parler évidemment du répertoire marseillais, on va parler aussi des grands chanteurs marseillais. Vous êtes venu avec une artiste d'opérette dont vous êtes très proche, que je suis très heureux de recevoir aussi. Et puis, elle est en plus elle-même la sœur d'un des très grands chanteurs ténors marseillais qui nous a quittés il y a peu de temps, Monsieur Charles Buol.
Aujourd'hui, prenons bien garde à ce bouquet plein d'appât. Je permets qu'on le regarde, mais que l'on n'y touche pas. Seul je prétends en cachette le tenir à mon pouvoir, et je me fais une fête de le détacher ce soir. Quand j'y pense, quel effet cela me fait? À l'avance, quand j'y pense, quel effet cela me fait? À l'avance, quand j'y pense, quel effet cela me fait? À l'avance, quand j'y pense, quel effet cela me fait? À quel effet cela me fait? À quel effet cela me fait? À quel effet cela me fait? De l'innocente clairette fait madame pomponner. À l'avance, quand j'y pense, quel effet cela me fait? À l'avance, quand j'y pense, quel effet cela me fait? À l'avance, quand j'y pense, quel effet cela me fait? À l'avance, quand j'y pense, quel effet cela me fait? À quel effet cela me fait? À quel effet cela me fait?
Pomponner, le rôle de Pomponner dans La fille de Madame Angot, chanté merveilleusement par Charles Buol. Bonjour Simone Buol. Votre grand frère, on peut dire, hein, qui nous a quittés tout récemment. Oui.
C'est ça, il y a 2 mois, enfin, le 22 août.
Ah voilà, au mois d'août, ce ténor extraordinaire qui aimait, alors là on l'entend dans l'opérette, mais il aimait justement mélanger les genres et passer de l'opéra
de l'opérette. J'ai eu le bonheur d'être à ses côtés dans 2 opérettes et dans 2 opéras, sur scène,
Notamment Mireille.
Mireille, dont je faisais la sœur. Bien sonnette, et il y a quelque chose qui nous a marqué, c'est que quand on y rentrait au 2e acte, qu'on se tenait la main, quand il vient demander la main de Mireille, dans la salle, on a entendu « si ça sûr, 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 si ça sûr ». Et jusqu'à... c'était merveilleux d'être à ses côtés.
Vous étiez la petite sœur.
La petite sœur, d'ailleurs, il disait à tout le monde « ma petite sœur, elle est où, ma petite sœur ?» Même quand j'étais plus petite.
Et c'est pour suivre les traces de votre frère que vous êtes vous-même entré dans le métier du chant et de la scène?
C'est-à-dire, on est d'une famille d'artistes. Hein, il faut que je vous dise, mon grand-père était comique troupier, mon père était clown, il jouait de plusieurs instruments. J'ai trois frères encore, donc ils sont trois ténors. Dont un qui a fait une petite carrière d'opérette, Michel Andréussy, et l'autre, le dernier, dans la variété. J'ai mon mari, on a fait nos études ici au conservatoire.
Aussi au conservatoire.
Ma fille est violoniste et mon mari est corniste et on s'est connus ici.
C'est
voilà.
C'est vraiment une famille de
musiciens. Oui, oui.
Je me tourne vers vous, Maurice Ibéraz. Vous avez, j'imagine, beaucoup d'admiration pour Charles Burle et la carrière qui a été la sienne, qui est passée beaucoup par l'Opéra de Marseille, évidemment.
Oui, bien sûr. Et puis Charles, ça fait partie de mon enfance, de mon adolescence. C'est-à-dire, c'était un monument qu'on visite. Et c'est pour ça que j'ai pu pas l'accompagner, mais disons le voir encore. Je veux dire jusqu'à ces derniers jours. Et vraiment, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur parce que ça faisait partie des figures tutélaires de Marseille, de l'Opéra de Marseille. Oui.
Et alors, sa sœur Simone. Simone, vous vous rappelez comment vous l'avez rencontrée?
La première fois que j'ai vu Simone, c'est sur scène, c'est-à-dire je l'applaudis.
Oui,
c'était un de la Canebière. On va sans doute en parler.
Voilà, parce que vous êtes devenue, Simone Burle, une interprète, j'ai envie de dire, aguerrie, notamment de l'opérette marseillaise.
Oui, oui.
Vous avez chanté notamment avec Fernand Sardou.
Oui. Voilà. Alors Fernand Sardou, c'est toute une histoire qui va être vite raccourcie. C'était quelqu'un que j'adorais, toute petite, et mon rêve, c'était de le rencontrer. Et un jour, au conservatoire, mon professeur, maître Mercadel, est venu et m'a dit, tu sais, l'Opéra de Marseille, il vient de me demander pour faire la petite mariée dans l'auberge, et c'est toi que j'ai choisi, et moi, je n'ai vu que j'allais approcher Fernand Sardou. Et donc, il a eu son premier malaise, et je lui ai pratiquement sauvé la vie parce que j'ai appelé le patron de la Timone qui est aussitôt venu à minuit pour lui sauver la vie. Et là, j'ai été comme sa fille pendant
de longues
années.
Alors, ce qui est surtout très réjouissant pour nous, c'est que Simone Burle, vous continuez aujourd'hui à monter sur scène, à chanter, à prendre des rôles et aussi à faire de la mise en scène. Et notamment, eh bien, vous serez, je crois, en février prochain, à l'Odéon, dans le rôle d'Hermerance, la tante, vous savez, de Véronique.
Pour le larbin.
Ne jamais sortir qu'au matin.
Eh ben, ça sera gai pour le larbin.
Ne jamais sortir qu'au matin. Combien de surprises m'enchantent, j'ignorais qu'il fût décamé. Jolis garçons et très bien mis. De braves ouvriers qui chantent et des grisettes sous le ciel, descendant des faubourgs.
Ça sera gai pour le larbin.
Ne jamais sortir qu'au matin.
Eh ben, ça sera gai pour le larbin.
Ne jamais sortir qu'au matin.
Et voilà, ça c'est le trio d'entrée de Véronique, d'André Messager avec Tante Hermerance et Séraphin qui dit ça serait gai pour le larbin.
Et
voilà une œuvre que vous allez chanter donc au mois de février.
Ah oui, avec plaisir d'ailleurs, voilà. J'adore ce rôle.
J'adore. Vous l'avez déjà chanté, Véronique
Simone Buerd. Oui, oui, j'ai déjà chanté et j'avoue que c'est un rôle qui me plaît énormément et je suis ravie de le refaire.
Voilà, tout ça pour dire d'ailleurs que vous n'êtes pas cantonné dans l'opérette marseillaise, pas plus que le théâtre Odéon, de l'Odéon, n'est cantonné justement dans l'opérette marseillaise, même si c'est un genre en soi, dont on reparlera demain avec notre ami Laurent Vallière. L'Odéon, c'est un théâtre de l'opérette classique française, viennoise, sous toutes ses formes, Maurice Liberas. Hein.
Oui, bien sûr. Et effectivement, on est à Marseille, donc l'opérette marseillaise fait partie de nos gènes.
Elle est présente quasiment à chaque saison, voilà, par une œuvre.
Ouais, on essaie, de la Canebière, Trois de la Marine. Cette année, on présentera Ignace, bien que ce ne soit pas considéré comme une opérette marseillaise, mais comme ça a été illustré par Fernandel, donc on rapproche ce style de l'opérette marseillaise. Mais non, sinon, il y a effectivement de la musique viennoise, il y a les grands classiques d'Offenbach, il y a le messager, bien sûr, que j'adore, il y a tout ça.
Et vous donnez donc, alors, vraiment, j'insiste, parce que c'est unique en France, hein, en général, aujourd'hui, les opéras de région donnent encore une opérette par an, au mieux. Vous en donnez une par mois à l'Odéon, hein.
Oui.
Tout au long de la saison.
Et j'en suis fier.
Et c'est merveilleux. j'en suis très heureux. Et vous ne la donnez pas dans des conditions, j'ai envie de dire, au rabais, avec juste un piano, etc.
Non. Il y a une orchestre, une fausse orchestre. Hein. Il y a un cadre de chœur sur scène. Il y a des décors. Il y a des costumes qui sont fabriqués. Certains sont fabriqués par l'Opéra de Marseille, les ateliers d'Opéra de Marseille.
Ouais. Alors, c'est quoi en fait l'histoire de ce théâtre de l'Odéon, en quelques mots, Maurice Liberas?
Alors, l'histoire de ce théâtre, en fait, au départ, il y a des écuries sur le lieu.
C'est sur la Canebière.
Oui, en haut de la Canebière, à côté des Exérés Formés, pour ceux qui connaissent Marseille. Donc, il y avait des écuries, les chevaux qui tiraient les tramways de Marseille. Ensuite, les chevaux ont disparu, les tramways tirés par les chevaux aussi. On a transformé ça en grand théâtre, grande salle de théâtre, où il y avait à peu près 2000 places. Et puis, le cinéma est arrivé. Juste dans les années 50, on a tout cassé, on a fait grande salle de cinéma, puis on a à nouveau tout cassé, on a fait 7 salles de cinéma, un complexe cinématographique, et puis après, le théâtre est passé de main en main, et la ville de Marseille, Jean-Claude Gonin, avait décidé donc de racheter le théâtre et d'en faire un théâtre pour l'opérette.
Pour l'opérette, mais l'opérette donc qui est donnée, alors on pourrait dire c'est peut-être le seul petit regret, mais c'est la réalité aussi de peut-être du public, c'est qu'en général, c'est deux représentations par œuvre, hein, une matinée et une soirée.
Tout à fait. Deux matinées.
Avec un public fidèle et aussi, donc, en alternance avec l'opérette, le théâtre léger, on peut dire, qui est le cousin de l'opérette, le théâtre des boulevards, que vous programmez également à l'Odéon.
Des mini-récitals, des spectacles jeunes publics, du ballet aussi.
Voilà. Et traditionnellement, donc, comme votre prédécesseur, vous êtes dirigé à la fois le théâtre et l'Odéon.
Oui.
Voilà. C'est en tout cas une belle responsabilité dont on se réjouit, d'autant plus que ça va nous permettre de voir donc au cours de cette saison, je le dis parce que c'est merveilleux, il y a déjà eu Valse de Vienne, très prochainement Là-haut de Maurice Yvain, ensuite L'Auberge du Cheval Blanc, La Vie Parisienne, Véronique donc avec Simone Burle, Ignace, La Veuve Joyeuse et Gypsy, c'est quand même une belle saison.
Merci.
Maurice Liberas. Et le prochain, c'est Là-haut. Un petit mot sur ce choix avant qu'on ne retrouve...
J'adore, comme vous, j'imagine Maurice Yvain. C'est pas seulement du divertissement, c'est tellement fin, c'est tellement beau, telle belle écriture de livret, les histoires sont simples mais coquines à la fois, c'est une merveille.
C'est une merveille. Et nous avons la chance d'avoir ce matin donc au Conservatoire Pierre Barbizet deux des interprètes de ce Là-haut qui arrive très vite, hein, puisque c'est à la fin du mois de novembre. La chanteuse Julie Morgane, qu'on va entendre tout à l'heure, et puis Dominique Desmond, qui est un passionné d'opérette et de chansons, qui en plus, je le disais tout à l'heure, comme Reynaldo Hahn, s'accompagne lui-même au piano quand il chante. Et il va nous interpréter tout de suite une petite chanson, puisqu'on est à Marseille, de Vincent Scotto.
D'apercevoir dans la salle Pépita, l'élu de mon cœur. Aussi permettez que je la régale d'une chansonnette en son honneur. Seulement je l'avoue, ma divine, je ne sais pas jouer du banjo ni même de la mandoline, mais ne t'en fais pas mon coco. Je me suis muni d'un instrument qui te charmera certainement. Oui, ma beauté, ce soir j'ai pris pour t'épater mes belles castagnettes. Je ne te le cache pas, elles me viennent de mon papa, mes belles castagnettes. Ah tiens, je voudrais que tu viennes les voir de plus près, mes belles castagnettes. Rien que d'y penser, aussitôt je les sens s'agiter, mes belles castagnettes. Mes cascasses, mes tatas, mes belles castagnettes, olé. Mes castagnettes, c'est toute ma fortune, nuit et jour, j'aime à m'en servir. Et bien malgré tout, ma jolie brune, j'ai décidé de te les offrir. Comme il y en a deux exemplaires, je pourrais ne t'en donner qu'un. Mais tant pis, je t'offre la paire. Quand je fais quelque chose, je le fais bien. Tâche de t'en servir quelquefois pour qu'elle te fasse penser à moi. Soir et matin, je veux que tu les tiennes dans tes mains, mes belles castagnettes. Surtout vois-tu, ne joue pas de fantaisie dessus, mes belles castagnettes. Car mon trésor, si tu les remuais trop fort, mes belles castagnettes, sans t'en douter, tu pourrais très bien les fêler, mes belles castagnettes. Mes cascasses, mes tatas, mes belles castagnettes, olé. Mais t'as l'air de faire la difficile, est-ce que par hasard tu voudrais que je te les apporte à domicile, non sans blague, pour qui tu me prendrais? Si tu refuses cette aubaine, c'est sans doute qu'un autre monsieur a dû te proposer les siennes, en te disant qu'elles sont mieux. Il t'a bourré le crâne, mon petit loup, car je peux te le dire entre nous. Elles sont, vois-tu, d'un format comme on n'en fait plus, mes belles castagnettes. Ne les refuse pas, elles sont encore en bon état, mes belles castagnettes. Et si tu veux les avoir toujours sous les yeux, mes belles castagnettes, je pourrais te donner même le clou pour les accrocher, mes belles castagnettes. Mes cascasses, mes tatas, mes belles castagnettes.
France Musique, en week-end à Marseille.
Oui, c'était Dominique Desmond, une grande mode au fond, hein, au début du siècle, que de faire des chansons coquines, mais où il n'y a pas un seul gros mot aussi.
Exactement, si exactement. Il y a un répertoire incroyable qui foisonne à partir de la fin du 19e siècle jusqu'à la fin des années 30, allons-nous dire, puisqu'après, la période est devenue un petit peu plus sage, mais quand même, quand on même. Arrive à trouver quelques spécimens de chansons assez incroyables.
Et vous êtes, il faut dire, un découvreur de chansons depuis vos débuts, puisque vous aviez d'abord, enfin entre autres activités, monté tout un spectacle autour de Gilles, Jean Villard, Gilles, ce grand chanteur suisse. Hein,
Jean Villard, Gilles, oui, que peu de gens connaissent, mais en fait, on le connaît sans le connaître réellement, puisque c'est lui qui est l'auteur et compositeur de la fameuse chanson qui a été immortalisée par les compagnons de la chanson Édith Piaf, Les Trois Cloches.
Et voilà, exactement. Et voilà. Puis Dollar, et
Dollar, puis Dollar, etc. Et donc j'ai chanté tout le répertoire de Gilles pendant plusieurs années, en Suisse, en France et ailleurs, avec ma partenaire Marie-Françoise Rabetot. C'était voilà. le duo Rabetot-Desmond.
Et voilà. Peu à peu, donc vous avez eu ce goût d'aller explorer au fond le patrimoine de la chanson française.
Alors, peu à peu, je vais dire, je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que comme Simone aussi, je fais partie d'une famille, on va dire plutôt de musiciens amateurs. Si mon oncle est musicien professionnel, il était musicien de bal et jazzman, et mes grands-parents tenaient une épicerie buvette, et puis jouait de la mandoline, du banjo, ma grand-mère chantait, et tout le quartier était animé les beaux soirs d'été dans le faubourg de Limoges.
Mais vous avez donc finalement monté aussi des spectacles autour de ces chansons.
Voilà, parce qu'il m'est venu une passion, voilà. tout, tout enfant, j'avais 8-9 ans, et donc j'ai commencé à collecter des partitions, etc., et j'ai monté plusieurs spectacles
et
de
alors,
récital.
Et alors, évidemment, de la chanson à l'opérette, il n'y a qu'un pas, parce que souvent ce sont les mêmes compositeurs, là on avait Vincent Scotto en l'occurrence, mais
exactement.
Vous êtes assez vite passé de l'un à l'autre.
Là j'ai encore retrouvé récemment des partitions de chansons écrites par Robert Planquette.
Et oui, voilà. Beaucoup de chansons. Entre autres, oui. Et vous êtes devenu, alors, bien que vous soyez originaire plutôt de la région de Limoges,
oui.
Vous êtes devenu un Marseillais de cœur
Et
un Odéonien.
Je suis sociétaire.
Disney ou Maurice Ibéraz, vous êtes un de vos fidèles interprètes, Dominique Desmond.
Ah oui, il y a une sorte de troupe comme ça, de grande famille à l'Odéon. Et
vous y tenez beaucoup d'ailleurs à cette familiarité
puis,
avec certains
et
artistes.
Et il n'y a que comme ça, parce que bon, ce sont quand même des conditions qui ne sont pas optimales au Théâtre de l'Odéon, on n'a pas les moyens d'un grand opéra.
Ouais.
Donc je veux dire, ça ne peut marcher que si effectivement il y a un esprit de familial et que tout le monde s'entende bien. Il y a sept problèmes comme ça au quotidien pour s'en créer d'autres. Mais juste un petit mot, c'est que Dominique, je crois qu'on s'est connu dans une abbaye, à l'abbaye Sylvanès.
Oui. Ah oui, alors c'est très différent. Alors. Oui. Et vous chantiez des chants grégoriens ensemble?
Non, du tout, ils chantaient ce répertoire-là.
Ah bon, à Sylvanès?
Oui,
c'est une abbaye très, très tolérante. Hein. Et alors, donc Dominique Desmond, je le disais, sera bientôt dans Là-haut. Hein, vous chanterez le rôle du cousin Martel.
C'est cela.
Voilà. Mm-hmm. Et vous serez en compagnie, entre autres, d'une artiste charmante, excellente fantaisiste qui est venue avec nous ce matin aussi, Julie Morgan, qui est aussi, je crois, Maurice Ibéraz, une des habituées de l'Odéon. Hein.
Oui, pour moi, c'est la fantaisiste française, telle qu'on a pu la connaître avec des personnes comme Jacqueline Guy, par exemple, qui nous, pour les intime, et elle fait partie de cette grande famille, de ces grandes traditions. Sa maman et son papa ont fait aussi de l'opérette.
Bien voilà, entendu. Et d'ailleurs on en parlera avec elle tout à l'heure, mais alors je propose tout de suite qu'elle rejoigne Dominique Desmond, parce qu'ils vont justement nous interpréter un duo extrait de l'opérette Là-haut de Maurice Yvain, qui, je le rappelle, sera donc à l'affiche du Théâtre Odéon, de l'Odéon de Marseille, les samedis 27 et dimanche 28 novembre prochains.
Excusez ma réponse, c'est stupide, j'en conviens. C'est un mot qu'on prononce et qui ne signifie rien. Selon qui nous questionne, pourtant notre intonation le façonne et lui donne sa vraie signification.
Pourquoi je ne veux rien dire?
Parce que.
Pourquoi vous me voyez rire?
Parce que.
Pourquoi tout bas je soupire?
Parce que.
Ça me plaît, monsieur, de soupirer. Pourquoi je baisse ma robe?
Parce que.
Pourquoi ma main se dérobe?
Parce que.
Pourquoi je plaisante? Pourquoi je m'évante?
Simplement, mon Dieu, parce que.
Quand on est une femme, mon cousin, c'est insensé. La série des tas d'âmes par lequel on peut passer. Mais quand on examine notre cœur, on aime assez. Qu'on termine le mot.
Si vite.
Parce que.
Pourquoi ma rougeur subite?
Parce que.
Pourquoi ma pâleur ensuite?
Parce que.
Ce soir il se peut que j'ai la fièvre un peu. Pourquoi les roses me grisent?
Parce que.
Pourquoi je dis des bêtises?
Parce que.
Pourquoi je me frôle contre votre épaule?
Merci beaucoup à Julie Morgan et à Dominique Desmond, qu'on va retrouver tous les deux tout à l'heure et qui seront donc dans Là-haut à la fin du mois de novembre à l'Odéon à Marseille, dans une mise en scène, Maurice Ibéraz.
De Carole Klein.
Carole Klein, qui est aussi une habituée de la maison.
Une grande habituée de la maison, qui était elle-même aussi fantaisiste, j'espère qu'on ne voudra pas dire ça, qui est un peu en fin de carrière de fantaisiste, et donc c'est lancé dans la mise en scène, elle est chorégraphe. Mais comme tous les fantaisistes, ils savent tout faire, c'est-à-dire ils savent faire des roues, ils savent faire des... Ce sont des acrobates, ils savent jouer la comédie, chanter, danser, faire des claquettes, et en fait ils savent tout faire.
C'est vous aussi, Simone Biol, vous savez tout faire en somme.
Oui, presque.
Presque, les claquettes, danser la roue.
Voilà, oui, mais ça m'est arrivé d'ailleurs, une fois on m'a laissé tomber sur la tête un partenaire, vous voyez, en faisant la roue.
Et on peut dire, d'ailleurs, vous avez une diversité de répertoires. Vous avez commencé dans Rose de Noël ou La Chauve-souris. Et puis, vous avez chanté La fille du tambour major, Le pays du sourire, Un de la canebière, Andalousie, Le chanteur de Mexico, Véronique, mis en scène par notre ami Yves Coudray, etc.
Oui, j'aime beaucoup Yves. Voilà. C'est un super metteur en scène.
Et alors donc, dans toute cette carrière de chanteuse, vous avez évolué, on peut dire, justement vers ce métier singulier qui est celui de fantaisiste et que vous revendiquez aussi.
Oui, absolument, j'adore. Et puis maintenant, de prendre les Desclosas, c'est superbe aussi. Ça apporte énormément, ce sont vraiment des rôles que j'affectionne. Des rôles de fin de carrière, comme ça, comme on dit.
Ça peut durer très longtemps. Et alors, donc, Fernand Sardou, vous le disiez, vous a mis un peu sur la voie de l'opérette marseillaise, qui est devenue un peu une de vos spécialités.
Ici, quand j'ai passé mon concours de fin d'année de prix, il y avait Étienne Bernard dans le jury. Et Étienne Bernard a apprécié ce que j'ai fait. Il m'a dit je parlerai de toi. Et quelques temps après, on m'a appelé de l'Opéra de Toulon pour faire Un de la Canebière. Donc j'ai débuté dans Un de la Canebière.
Voilà, et vous en avez chanté beaucoup depuis. Hein.
J'ai eu toutes les distributions, je crois. Avec Michel Dunant, Alain Merquès, Francis Linel dans les rôles principaux, Jacques Iberville, Fernand Sardou. Et Fernand, c'était extraordinaire parce que on a fait des tournées à Lille, au Sébastopol.
C'était un des grands théâtres d'opérette aussi qui existait à ce moment-là en France.
C'était tellement fantastique que le public était fou, quoi. On nous faisait re-signer une année sur l'autre. Pendant 2 ans, on a fait ça.
Il faut préciser, Maurice Ibéraz, d'ailleurs, que dans l'opérette marseillaise, il y a Marseille, évidemment, mais il y a aussi beaucoup Toulon, hein.
Oui, parce que Trois de la Marine, ça se passe à Toulon. Oui, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Et c'est aussi un opéra avec lequel il vous arrive aussi de travailler,
de coproduire, tout à fait.
Voilà. Et vous allez donc donner, je crois, prochainement, dans une mise en scène de Simone Burle, Trois de la Marine.
Trois de la Marine, en novembre 22. Merci Maurice de m'avoir fait cette joie, parce que vraiment, c'est...
Vous êtes devenu metteur en scène.
Donc. Oui. J'ai une école de chant art lyrique depuis 1993, à Tarascon. Et là, tous les ans, j'écris un spectacle. D'ailleurs, j'ai écrit un spectacle qui s'appelait Petit Vincent, Grand Scotto.
Eh oui.
Avec tous les...
Vous avez fait un hommage à Charles Trenet aussi.
Spectacle sur Charles Trenet. Alors ça, extraordinaire, que j'adore. Oui.
Et puis, vous avez pris l'habitude donc de mettre en scène ces opérettes marseillaises.
Voilà.
Vous avez fait Un de la Canebière.
Un de la Canebière, oui, que j'ai mis en scène plusieurs fois, oui. Et vraiment, ça, c'est... extraordinaire. On faisait des tournées l'été, on faisait 2 mois de tournées sur la Côte d'Azur.
Dans toutes les
villes. C'était incroyable ce qu'on jouait. C'est une opérette qui est connue, mais vraiment dans le monde entier, ça a fait le tour du monde,
tubes,
de la Canebière.
Il n'y a que des tubes,
il n'y a
presque
que des tubes,
toujours
exactement.
Vincent Scotto, et je vous propose justement, puisqu'on en a parlé à l'instant, qu'on aille faire un petit tour. Allez, dans un petit cabanon du côté de Toulon.
Je connais des tas de gens qui, dans la vie, voient gras.
Cela n'est pas un défaut, car il faut ce qu'il faut.
Pour mon compte, voyez-vous, il m'en faut pas beaucoup. Moi, mon rêve le plus fou se borne à cela et c'est tout. Un petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur des roches. Pour vivre qu'il fait bon quand la blague à son toit accroche. Son pavillon joyeux qui claque dans notre ciel bleu. À l'intérieur sur une table c'est tout, oui, mais sur cette table il y faudra surtout un aïoli odorant et cordial dont se régalera le gourmand provençal. C'est pourquoi sans façon je te dis là dans ma caboche, le bonheur t'est mon bon, c'est un tout petit cabanon.
C'est bien beau ton cabanon, m'a soufflé Cupidon, mais il sera plus joyeux lorsque vous serez deux.
Cela est mon vif désir, si vous voulez venir, il deviendra un château si nous y chantons un duo.
Un petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon, au bord de la mer sur des roches. Pour vivre il fera bon si l'amour sur son toit accroche. Son pavillon léger où l'on voit deux cœurs enlacés. À l'intérieur une chambre et c'est tout. Dans cette chambre-là il faut un lit surtout. Et dans ce lit un oreiller moelleux. Et sur l'oreiller il faut deux amoureux. C'est pourquoi sans passant je me dis là dans ma caboche. Le bonheur t'est mon bon, c'est un tout petit cabanon.
Connu le grand Alibert, interprète s'il en est de l'opérette marseillaise, sauf qu'il paraît qu'en fait il jouait un peu son accent et que quand il chantait à Paris il l'avait pas forcément toujours. Maurice Liberas en tout cas, et puis j'aime bien ces petites voix acidulées qui font les vocalises, c'est vraiment le style de l'époque où les orchestres aussi avaient parfois le nom de jazz marseillais, comme si voilà, c'était avec quelque chose de jazz dans cette musique. En tout cas, voilà, c'est un extrait de un de la Canebière. Et je voudrais maintenant qu'on parle d'une grande artiste, Maurice Liberas, qui devait être avec nous ce matin, oui. Qui a malheureusement un souci de santé, et qui, alors, elle n'est pas une vedette de l'opérette marseillaise, mais qui est une vedette d'opérette devenue marseillaise à la fin de sa carrière. Hein. Elle a été une grande artiste de l'opéra de Bordeaux, de Dijon. Elle a chanté partout en France, et notamment à Paris, l'Auberge du Cheval Blanc. Et aujourd'hui, elle vit à Marseille. Alors, on va la saluer quand même. Jeannine Ribaud, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors, Jeannine Ribaud, d'abord, c'est un personnage extraordinaire. Tous les gens qui la côtoient ne vont pas démentir. C'est une personne formidable. Il faut avoir vu une fois dans sa vie, malheureusement c'est trop tard, l'entrée de la Veuve Joyeuse par Jeannine Ribaud. C'était la divette par excellence. C'est-à-dire qu'il y avait tout. Il y avait le sourire, il y avait le port, il y avait l'œil, il y avait la voix.
Une très jolie voix. Hein,
une très jolie voix. Ouais, c'est une voix d'opéra. Ouais. Lorsque je dis à Jeannine, mais pourquoi tu n'as jamais chanté l'opéra? Non, je n'avais pas tenu compte les voix qu'il y avait à l'époque. J'aurais pas pu. Mais aujourd'hui, on ne ferait pas chanter Brunhilde quand même pas. Mais on lui ferait chanter Mimi, on lui ferait chanter beaucoup de choses. C'est une voix fruitée, c'est une voix qui portait énormément. Et elle était d'une beauté, elle est toujours d'une beauté inimaginable. Et elle était très, très coquette. À tel point, je me rappelle une anecdote, c'est que lorsqu'elle faisait Josepha dans la...
Alors, Josepha, je précise, elle l'a chantée 2500 fois. Ah ouais. Dans sa carrière, et notamment, évidemment, plus de 660 fois au Châtelet, avec Bernard Lavalette, et dans cette grande production, commencée en 1960 à l'initiative de Maurice Lehmann.
C'est fou, hein. Ouais, c'est fou lorsqu'on voit ces chiffres-là. Et alors, lorsqu'elle passait sur la passerelle, parce qu'à l'époque, on avait le droit d'avoir des passerelles, maintenant, il y a des problèmes de sécurité, donc elle passait près du public, elle se parfumait les jupons. Parce qu'elle trouve, ah, mais pourquoi tu fais ça? Mais je parfume les jupons, parce que tu comprends, pour les spectateurs de premier rang,
plus agréable.
Si ils sont tirants, ce sera plus agréable. Ça, c'est Jeannine.
Est-ce que vous savez pourquoi Jeannine Ribaud, finalement, a choisi la ville de Marseille pour sa retraite?
Elle a eu un compagnon. Ah. Elle a eu un compagnon qui était marseillais, se sentait bien à Marseille, il chantait à l'Opéra de Marseille. De là, elle pouvait rayonner à travers France, aller à Avignon, chanter à Avignon, à Toulon, à Nice, un peu partout.
Voilà. Alors, j'espérais qu'elle serait avec nous ce matin. Malheureusement, ça n'a pas été possible, mais on la salue d'abord. Et puis, j'espère refaire très prochainement une émission avec elle parce que j'étais très impressionné par la qualité de son chant, etc. Ouais. Elle a enregistré beaucoup de disques, alors de Lopez, notamment en duo avec Irigoyen. Hein, et puis, elle a également enregistré donc cette auberge du Cheval Blanc qu'elle a chanté plus de 2500 fois durant sa carrière.
Ce que je voudrais te dire, tu le sais. Tout ce que mon cœur désire, tu le sais. Écoute, pourrait-on s'exhaler mon bonheur au grand en un chant délirant. Trouver des mots qui t'expriment aujourd'hui le sentiment qui m'anime, je ne puis. Mais l'appel vibrant d'un violon charmeur te dira ma ferveur.
caressant sur un accord languissant te dira pour la première fois: oh mon bien-aimé, je suis à toi. À cette voix qui murmure nos serments, nos cœurs battent la mesure tendrement. La douce harmonie à jamais nous unit, nous deux, et répond nos aveux. Elle sait les mots splendides, dites-nous bas, que malheur encore timide n'ose pas. Lorsque tu me tiens en des bras empressés, oh mon doux fiancé,
Jeannine Ribaud dans l'Auberge du Cheval Blanc. Je précise d'ailleurs que ces enregistrements ont été très bien réédités par notre ami Mathieu Mouglin chez Marianne Mélodie. Il y a deux CD consacrés à Jeannine Ribaud, avec l'Auberge du Cheval Blanc, avec les œuvres de Lopez, avec Éric Goyenne, avec aussi très bien chanté des chansons 1900, merveilleusement interprétées. J'espérais que vous soyez ensemble, Simone Buhl, ce matin. Et vous êtes amis, je crois, aussi,
oui,
avec Jeannine Ribaud.
Oui, très, très amis. C'est une personne, en plus de son talent, c'est une belle personne. Voilà. Elle est vraiment extraordinaire, gentille au possible. Elle a beaucoup de charme, d'esprit, et puis elle est tellement drôle aussi. Voilà. C'est,
alors on la salue, et vraiment, j'espère qu'elle sera bientôt avec nous, et puis qu'elle retournera peut-être avec vous prochainement à l'Opéra, parce que j'imagine que tout ce petit monde se retrouve aussi aux premières de l'Opéra de Marseille.
Ah oui, à l'Opéra. Alors ça fait partie pas de mes grandes joies, c'est de voir tous ces anciens qui viennent au général ou aux représentations, et c'est leur maison.
Voilà, c'est leur maison, c'est votre maison aussi, dans laquelle donc vous vous efforcez. Alors là, je voudrais insister, Maurice Ibéras, parce que je disais au début de l'émission que Marseille était la seule ville à avoir encore une vraie saison d'opérette, mais Marseille est aussi l'opéra de France qui aujourd'hui peut-être fait le plus pour la redécouverte d'un certain patrimoine français, lyrique, négligé, et peut-être d'ailleurs... Parmi ceux qui ont lancé ce mouvement, ça a été René Auffant, qui a été longtemps directrice et qui vous a fait venir justement revenir à Marseille.
Oui, je suis arrivé dans les bagages de René Auffant en fin 2001. Et ensuite, lorsqu'elle a fait valoir ses droits à la retraite, comme l'on dit, en 2008, je suis devenu directeur artistique et en 2013, directeur général de l'Opéra de Marseille. Ouais. Effectivement.
Elle avait déjà montré à Genève, oui, puis à Marseille, ce goût des opéras parfois injustement oubliés.
Voilà, par exemple, son grand plaisir, ça a été de pouvoir remonter, représenter l'Aiglon. Elle considérait que c'était un chef-d'œuvre.
L'Aiglon de Honegger et Jacques Ibert, qui a été enregistré dans la foulée, d'ailleurs, en disque.
Oui, tout à fait. Et avec Alexia Cousin, qui était le roi Lidoine, enfin, qu'il fallait pour ce rôle. Et ça reste pour moi un des meilleurs souvenirs de l'Opéra de Marseille.
Voilà. Et vous avez vous-même aussi cette fibre, donc, de ce goût pour l'Opéra français et ses interprètes.
J'essaie, pas autant que ce que je voudrais. On a pu présenter Salambo de Reyer, du Grand Reyer, compositeur marseillais. On a pu présenter la Chartreuse de Parme, Cléopâtre de Massenet. Et bien d'autres choses.
C'est déjà beaucoup. Il y en a quasiment, on peut dire, un par saison.
C'est là, dans les tuyaux, il y a l'Africaine qu'on a dû reporter. Puis il y aura les, la saison prochaine, il y aura les Huguenots, le Meyerbeer.
Et voilà. Donc, l'opéra français à Marseille est à l'honneur et il faut le souligner. Et vous avez cité le nom de Reyer. Alors, peut-être qu'une partie du public d'aujourd'hui ne sait plus très bien qui était Reyer, mais il faut dire que c'était une des grandes gloires de l'opéra français, justement, à la fin du 19e siècle.
Ah oui, grand musicologue, il était critique aussi, critique.
Excellent critique.
Il était membre d'un institut, mais il me semble, c'était vraiment un personnage national, vraiment une grande figure tutélaire.
Adulé dans sa ville de Marseille.
Oui, adulé. D'ailleurs, la place, le foyer s'appelle le foyer Ernest Reyer.
Voilà. Et on aperçoit même ici un buste de Reyer au fond de cette bibliothèque, d'ailleurs.
Voilà. Et pour l'anecdote, il y avait une statue qui le représentait assis devant l'opéra, mais comme on le représentait se bouchant les oreilles, ça l'a foutait mal, comme on disait à Marseille, donc on a déménagé la statue qui a fait un peu le tour de tout Marseille.
Et Sigurd était donc un opéra du grand répertoire, hein, oui, au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
Oui, commenté chaque année, parce qu'il y avait les voix pour aussi, parce qu'il faut des grandes voix wagnériennes, et on chantait bien sûr, c'est du répertoire français, le célèbre César Bezzani, José Luchioni, Georges Thiel, enfin tous les grands ténors se sont essayés, même Roberto a enregistré Esprit gardien de ces lieux. Et puis il y avait Salambeau qu'on a redécouvert. J'aimerais un jour monter Maître Wolfram, qui est
un autre opéra.
Oui, certains anciens disent que c'est un chef-d'œuvre.
Et le Salambeau, c'est d'après
Flaubert.
Le Flaubert. Oui, oui. Ça a été une réussite cette
reprise. Ah oui, grande réussite, grande redécouverte. France Musique l'avait retransmis. Et malheureusement, j'espérais, parce qu'on n'avait plus du tout trace de ce Salambeau, tout le monde en parlait. Et je me suis dit, bon, ben, ça va donner peut-être l'idée à d'autres théâtres de reprendre cet ouvrage. Et maintenant.
Voilà. Bon, en tout cas, vous êtes là pour oui, montrer l'exemple. Et j'espère que ça finira par être suivi un peu partout en France. Et je propose, vous avez cité César Vezzani, je crois que c'est lui qui va nous chanter maintenant, justement, l'air de Sigurd.
Un souvenir poignant, quand mon âme troublée me fait sentir son aiguillon de fer. Je te revois toujours, ô déesse aisée, subissant dans les pleurs l'amour du roi Quintair. Oh, Brunehilde, ô ma pauvre. N'ai-je bravé l'horreur de ta prison de flamme ou du moins le sommeil? Ferme tes yeux charmants que pour te voir en toi à ces quels tourments.
César Vezzani, donc, dans Sigurd de Reyer, le grand compositeur marseillais, mis à l'honneur par l'Opéra de Marseille, sous la direction de mon invité Maurice Ribéras, avec une saison, je le disais, où l'Opéra français a déjà eu sa place, puisqu'il y a eu Guillaume Tell de Rossini, même si le compositeur est italien, c'est bien un opéra français.
Oui, 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 tout à fait, en version française.
En version française, et puis vous donnerez Werther également au mois de mars. Et il faut dire aussi que, donc, si vous donnez à l'Odéon des productions d'opérettes, vous donnez aussi parfois des plus grandes productions de musique légère ou d'opéra bouffe ou d'opérette à l'opéra lui-même, et ce sera le cas bientôt avec le Voyage dans la Lune d'Offenbach.
Alors oui, le Voyage dans la Lune qui sera une création à l'Opéra de Marseille de Jacques Offenbach est une coproduction avec le CFPL et avec un bon nombre d'opéras français qui nous a permis de faire des distributions, deux distributions avec de jeunes chanteurs français. On est vraiment heureux.
Voilà, mais d'une façon plus générale, de temps en entend évidemment les, l'opérette est aussi à l'opéra.
Il est de tradition que pour les fêtes de fin d'année, on présente un grand spectacle d'opérette ou un spectacle léger en tout cas.
Voilà. Et puis Offenbach, il est aussi à l'Odéon d'une façon régulière, oui. Avec notre ami Jean-Christophe Keck qui présente des œuvres peu connues d'Offenbach, comme il sait si bien le faire.
Oui, alors on a fait le pari avec Jean-Christophe qui est bon. C'est inutile de le rappeler, qui est le grand spécialiste mondial de Jacques Offenbach, qui fait un travail formidable de titan avec ses éditions. Et on a fait le pari un peu de présenter l'intégralité des opérettes en un acte de Jacques Offenbach, et on en continue.
Donc c'est un projet qui court, depuis des années, voilà. Et on peut donc les redécouvrir, chanter, jouer avec piano, etc.
Et il présente ça, il met ça en parallèle avec les autres œuvres d'Offenbach, les mêmes années de composition, c'est très bien fait.
Voilà, et tiens, écoutons une petite polka, justement, extraite de ce voyage dans la Lune qui sera bientôt à l'affiche marseillaise. Antonio de Almeida, qui dirigeait donc ce ballet du Voyage dans la Lune d'Offenbach, œuvre qui sera à l'affiche de l'Opéra de Marseille du 26 décembre au 4 janvier pour les fêtes, comme on dit, et qui sera suivie par une œuvre beaucoup plus sérieuse, puisque ce sera la Valkyrie.
Ah oui.
Mais il faut dire, non mais sans blague, Maurice Ibéras, il y a, je crois, une vraie tradition aussi wagnérienne à Marseille. Hein.
Oui, parce que, alors, qui remonte vraiment à très 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 loin, effectivement, oui. Parce qu'avant, les chanteurs français, je dis souvent que l'outil crée l'organe, comment chantait Wagner en français, il y avait des chanteurs wagnériens. Et donc, dans toutes les troupes, il y avait les forts chanteurs, les fortes chanteuses qui chantaient le répertoire wagnérien. Et donc, il y a eu cette grande tradition qui était perpétuée. Régine Crespin, n'oublions pas, qui a chanté la grande wagnérienne française, qui a chanté Wagner à Marseille. Et puis après, plus proche de nous, il y avait Gwyneth Jones, Léonie Rizanek, qui venaient chaque année chanter du Wagner à Marseille. Et vraiment, il y a un public pour ça.
Je voudrais aussi, peut-être que vous nous disiez un mot, sans forcément trop entrer dans les détails techniques, mais il y a une singularité de l'Opéra de Marseille. Je ne sais pas si c'est un atout ou un inconvénient, c'est que cet opéra est en régie municipale. Hein, alors que la plupart des opéras français sont des associations, eh bien, à Marseille, vous êtes comme un service de la mairie, ce qui est, oui. Présente à la fois des avantages et des inconvénients.
Alors oui, effectivement, les avantages, par exemple, pendant la crise du Covid, les avantages, c'est que tout le monde a été payé, il n'y a pas eu de chômage partiel, effectivement, ouais. Ça a été une protection formidable.
Et puis vous êtes tout à fait indépendant, si je veux dire, enfin la ville défile fini, choisi un directeur et il a...
Oui, 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 carte blanche au niveau de la, voilà. De la programmation. Le problème, c'est qu'on a vu les limites de la régie administrativement. C'est-à-dire, c'est une course d'obstacles et de haies pour entrer dans le, vraiment dans le canevas, j'allais dire, et dans les obligations de, juridiques d'une ville. Et lorsqu'on est du spectacle vivant, faisons du spectacle vivant, et puis, ben, vous savez ce que c'est-à-dire qu'au dernier moment, il faut pouvoir lever le rideau, même s'il arrive une catastrophe. Ouais. Et le statut de régie, souvent, ne le permet pas.
Parce que donc, tout doit passer par le circuit interne de la mairie,
etc. De sous-couvert, et voilà, c'est...
Donc vous réfléchissez aujourd'hui avec la
oui,
mairie
la ville,
à l'évolution peut-être du statut de l'opéra.
La municipalité est en train de réfléchir au changement de statut.
Voilà, on suivra cette affaire en tout cas avec intérêt. Et je propose, avant de retrouver nos amis musiciens qui sont avec nous aujourd'hui, de repasser quelques minutes encore avec le merveilleux Charles Burle, Simone Burle. Un mot encore sur la carrière de votre frère, sur sa personnalité.
C'est une carrière magnifique. Oui. Vraiment, pour moi, c'était mon idole.
Oui.
Vraiment, depuis toujours. Et je l'ai suivi beaucoup, partout. Et en plus de ça, c'était un Maurice, une belle, belle personne.
Qui il était très attaché à sa ville natale.
Hein.
Je me rappelle
attaché.
Quand j'avais interviewé pour France Musique.
Oui.
Il voulait même pas quitter Marseille.
Hein. Non. Il était vraiment présent pour nous tous, pour toute la famille, notamment pour sa filleule avec qui il était très proche. Et il a été vraiment heureux quand Maurice lui a proposé ce violon solo à l'Odéon. Voilà, ça a été pour lui une grande joie.
Et il était particulièrement à l'aise dans ses beaux airs de ténor d'opéra français,
oui,
où la voix plane un peu, Maurice.
Et vous savez que, enfin, vous connaissez l'histoire du petit-fils de Massenet qui lui a écrit des lettres pour le féliciter. Il aurait aimé qu'il chante Werther, mais Charles n'a jamais voulu. Hein, Maurice, il a toujours préservé.
Oui, c'est la voie idéale pour tout ce répertoire d'opéra comique, de ténor léger, bien qu'aujourd'hui on le ferait chanter des choses beaucoup plus lourdes lorsqu'on entend certains chanteurs et certaines distributions. Mais c'était en plus, c'était une belle âme qui accompagnait les jeunes. Mmh. J'ai jamais entendu Charles dire du mal de quelqu'un. Bien sûr, on a toujours des angoisses lorsqu'on fait une programmation, lorsqu'on entend des chanteurs, on dit on a des craintes. Et Charles avait toujours un mot juste pour rassurer. Il dit, mais non, je t'assure, il fait ça très bien. Enfin, voilà, Charles, c'est bon, c'est une perle.
Viens, ô ma tour terrelle, pourquoi fuis-tu toujours? Ton tour de route appelle, pourquoi fuis-tu toujours? Ô tour de route appelle, pourquoi fuis-tu toujours? Pourquoi fuis-tu Viens, viens,
France Musique fête le bicentenaire du conservatoire Pierre Barbizet à Marseille.
Voilà, et moi je me joins aux applaudissements à Charles Burle de ce merveilleux enregistrement de ce grand chanteur. Là, c'était un enregistrement live qui est reparu chez Malibran Musique. Assis au pied d'un hêtre, l'air du postillon de Longjumeau, Charles Burle qui nous a quittés donc le 22 août 2021, tout récemment. Et nous sommes, je le rappelle, au conservatoire Pierre Barbizet à Marseille avec France Musique pour tout ce week-end. D'ailleurs, vous pouvez venir hein, toute la journée, je le dis au public, assister à différentes émissions. La prochaine, ce sera Portrait de famille de Philippe Cassard à 14h et puis ça dure jusqu'à tard ce soir en finissant par un concert de jazz. Et demain, on reparlera d'opérette marseillaise avec Laurent Vallière à 13h, ici même également. Donc vous êtes tous, chers publics, bienvenue. Et nous, nous sommes en compagnie aussi de deux artistes qui sont venus avant la production prochaine de là-haut nous chanter quelques petits airs d'opérette. Je suis ravi maintenant donc d'entendre Julie Morgan dans un extrait du Dédé de Christinet.
On se laisse
des airs d'Odette, hein, dans Dédé de Christine. Bonjour Julie Morgan, c'est gentil vraiment d'être avec nous ce matin.
Merci à vous.
Mais vous vous reconnaissez dans ce que disait Maurice Xibera sur la définition du fantaisiste ou de la fantaisie d'opérette, quelqu'un qui peut tout faire?
Ah bah c'est ça, on nous demande de tout faire en tout cas, mais on aime ça aussi.
Vous aimez
non,
ça
c'est
aussi.
Vrai qu'on apprend, c'est un peu, c'est la comédie musicale façon lyrique, puisqu'on voilà. nous demande de chanter, danser, jouer la comédie. Mais de chanter des partitions très classiques. Alors oui, il y a
on
des.
On vient d'entendre, vous êtes une vraie chanteuse d'ailleurs.
Merci. Et oui, oui, c'est après Dédé, c'est très jazzy tout ça. Et comme disait Simone, après il y a des rôles de fantaisistes qui sont vraiment beaucoup plus larges. Je pense au Pays du Sourire, par exemple, ouais. où c'est des rôles très en plus dramatiques. Fantaisiste, voilà, il y a jeune première fantaisiste. Fantaisiste, c'est la comédie musicale chantée comme à l'opéra.
Voilà, mais c'est une tradition qui est vraiment au cœur de toute l'opérette oui. hein, française et viennoise, vous l'avez dit, où mmh. il y a toujours le couple un petit peu léger,
toujours.
Comme ça, en parallèle du couple de grands amoureux.
On est là pour faire respirer un peu.
Voilà,
et des fois, on est là pour faire changer le décor.
Vous aimez bien...
C'est vrai.
Vous aimez bien aussi vous présenter, à juste titre, comme une enfant de là-bas.
Ah,
là,
bah,
vous
oui.
avez vraiment grandi dans le monde du spectacle.
Oui, oui bah, j'ai une maman, donc Michèle Mellory, qui a tenu le théâtre de Boulogne-sur-Mer pendant... 30 ans, 35 ans, et mon papa, Renaud Sorel, qui est metteur en scène, chanteur, danseur, tu vois, tellement de choses. Non, je crois qu'il fait pas de macramé, par contre, mais tout le reste, il le fait. Et c'est vrai que j'ai débuté, bah, à 4 ans, j'étais sur scène.
Voilà. Donc la maman, question s'est pas voilà. posée pour vous.
C'est bah non, aucune originalité. En plus, j'ai récupéré les rôles de ma mère, comme ça j'avais déjà les costumes, c'est fait. Voilà.
C'est bien, c'est comme l'époque où les artistes lyriques apportaient leurs costumes au théâtre. Hein. C'était
c'est
comme ça, n'est-ce pas, Maurice Libéras, autrefois
Oui. Tout à fait. D'ailleurs, il y a des sacrées anecdotes avec Jeanine Ribaud et Maggie Gauthier à propos de costumes. Mais effectivement, et Charles aussi, ils avaient chacun avait sa garde-robe.
Ah,
il fallait
oui.
se fournir.
Oui, parce qu'à l'époque, les metteurs en scène ne cherchaient pas absolument à faire autre chose que ce qui était prévu.
Non, il y avait très peu de temps de répétition. Souvent, ça se répétait en deux jours parce qu'ils avaient l'habitude de. Et puis, on jouait tellement. On jouait tous les jours.
Les mâles suivaient avec les costumes d'une
oui,
ville à l'autre.
Ah, oui.
C'était terrible parce que.
Il fallait que ça arrive.
Ah, oui, il y avait des cerclettes, il y avait tout, les perruques. On n'était pas fournis du tout à l'époque. Il fallait tout se fournir.
Et puis il y a des rôles où on aime bien avoir ses propres costumes aussi parce que c'est
aussi.
Le personnage
oui.
qui prend vie avec les costumes
Absolument.
Qu'on connaît et c'est.
Ouais.
C'est agréable de récupérer des costumes pour ça.
Alors Julie Morgan, vous avez trouvé à Marseille une seconde de patrie en somme.
Hein. Ah oui, c'est la maison.
Vous avez même pris un peu l'accent quand il faut.
Mais c'est ça. Après, je rentre dans le Nord, ils me font « mais t'étais où ?» Et ben, j'étais à Marseille.
Donc vous serez, vous aussi, hein, cette saison dans La Haute
oui.
très prochainement. Et puis sans doute après dans d'autres de
oui, on
spectacles.
Se retrouve sur Vie Parisienne et Ignace qui voilà. se fait cette année... à Marseille, Ignace.
Voilà, donc on va avoir la joie de vous retrouver ici et également donc dans là-haut avec Dominique Desmonts qui va, je crois, nous interpréter à son tour encore une petite chanson extraite de Autant des merveilleuses opérettes oubliées de Tiarco Richepin. Et voilà un joli petit air que vous nous donnez maintenant sur la musique de également de Christine. Hein.
Chanson bretonne. Je suis bretonne, bretonnante, conspiratrice, conspirante, et je conspire en bretonnant, et je bretonne en conspirant. C'est moi que j'ai été choisie, vu que j'étais la plus jolie. Les hommes, il faut les amadouer, amadouer, amadouer. C'est moi la plus sympathique des filles de chez nous. De l'Andivisio à l'Ocmiquélique et de Ploumanac jusqu'à Trestraou. De l'Ocaltos à Blohermel, de Vadofao. C'est moi qui suis la plus belle des filles de chez nous. You voyage lorsque je dîne, à Nantes je mange des sardines, et puis le soir je soupe à l'agneau, soupe à l'agneau, soupe à l'agneau. Si je vois le curé, alors bien vite, à manger la soupe je l'invite, et je lui dis, soupe pour l'abbé, pour l'abbé, pour l'abbé. C'est moi la plus sympathique des filles de chez nous. De l'Andivisio à la Piquélique et de Ploumanac jusqu'à Trestraou. De l'Ocaltas à Blanc-Hermel, de Vanofao. C'est moi qui suis la plus belle des filles de chez nous. You «
Je vais vous dire le dernier couplet en breton. Personne de chez vous ne sait ce qu'est le breton, hein. Eh bien, vous allez voir, c'est le plus joli. You, you, canic ou crêpe dentelle, nouga boîte à clou, boîte à sel, va dans la lande et tais ton bec, croûte du bignou, salamalec, peigne-moi le tuyau de gaz marivonne, l'iclobahurie d'autres crotonne, et t'as pas vu mon copain Paul, oh pain Paul, oh pain Paul, le retour du marin. Lit de cailloux, matelas de varec, pékinois toutou, secours, secoute et haricots secs, piqué, collégramme, garou, loup-garou, breton, bretonne et bretelle, troulala et tout, saxophone et sexe appelle, c'est idiot, mais je m'en fous. Yo!
J'adore cette chanson, cette fausse chanson bretonne chantée par Bach, je crois, à l'époque. Merci encore pour cette découverte, Dominique Desmond. D'ailleurs, on a été rejoint, on va parler dans un instant de tout ce qu'il fait à Marseille par mon cher Nicolas Lafitte, qui a été le complice, l'assistant de cette émission pendant de longues années.
Bonjour Benoît.
Bonjour Nicolas, mais vous aimez beaucoup Dominique Desmond.
Je l'adore, mais je l'ai connu, je pense que j'avais 14 ans, 13 ou 14 ans. Ça a été mon prof de chant et c'est un pédagogue absolument génial. J'ai découvert aussi du répertoire parce que je pense qu'à l'époque je connaissais seulement Céline Dion et les Spice Girls, ça veut dire mon niveau. Et grâce à Dominique, j'ai découvert beaucoup de choses de la chanson française, de l'opérette, mais surtout c'est un pédagogue extraordinaire. Et souvent, même si ça m'arrive de chanter encore un peu, mais beaucoup moins qu'avant, je repense à lui et à ses conseils. Vraiment, c'est quelqu'un qui cherche la voix. Votre voix et qui vous enlève tout ce que vous auriez pu entendre à côté. C'est fascinant, puis c'est un homme génial, un artiste génial.
Ah ben alors on rapplaudit Dominique Desmond. On va retrouver Nicolas Lafitte dans un instant, mais je voulais encore, parce qu'aujourd'hui on a dit nous sommes dans la ville qui défend, illustre le mieux l'opérette et l'opéra français. Je voulais qu'on dise quand même un petit mot du grand compositeur, alors là c'est pareil, hier c'est du XXe siècle, Henri Tomasi, qui est aussi une figure importante de la ville de Marseille, Maurice Ibéras.
Oui, Henri Tomasi. Bon, d'abord, il y a une salle Henri Tomasi aussi au Conservatoire de Marseille. Un compositeur marseillais qui a écrit beaucoup pour l'opéra, puisque il y a eu Don Juan de Manera, l'Atlantide, San Piero Corso, des cantates, oratorios, le triomphe de Jeanne, au Silence de la mer. Et on s'est pas donné comme mission, mais en tout cas aidé par le fils d'Henri Tomasi, Claude Tomasi, que je salue s'il nous écoute.
Oui.
Et grâce à lui, on a pu redécouvrir toute l'œuvre de son père. C'est vraiment un très, très, très,
très grand compositeur dont vous avez donné plusieurs spectacles à l'Opéra de Marseille depuis une vingtaine d'années. Hein,
oui, le San Piero Corso, Don Juan de Manera, l'Atlantide, dernièrement le concerto pour trompette avec le Silence de la mer, on a Retour à Tipaza qu'on avait enregistré avec l'orchestre et Daniel Mesguich. Oh, non, on a fait beaucoup pour
voilà, et heureusement pour lui, donc il a ce fils qui s'est fait beaucoup pour faire connaître son œuvre. Beaucoup de musiciens qui aiment sa musique et qui fort heureusement la jouent. J'étais impressionné par le nombre de concerts qui sont donnés pour ce cinquantenaire de sa disparition, ce 120e anniversaire de sa naissance. Il y aura notamment le Requiem pour la paix à la Sorbonne à Paris le 30 novembre, qui est une grande œuvre d'Henri Tomasi. Et fort heureusement pour lui, même s'il est peut-être parfois un peu trop oublié, il y a quand même une œuvre qui est entrée, on peut dire, au grand répertoire parce qu'elle est jouée par tous les plus grands trompettiste, c'est le concerto pour trompette ici par Wynton Marsalis.
Thank you.
Le final du concerto pour trompette d'Henri Tomasi par Wynton Marsalis, une œuvre magnifique de ce grand compositeur marseillais qu'on célèbre ce matin avec beaucoup d'autres en direct du conservatoire Pierre Barbizet. Donc Nicolas Lafitte vient de nous rejoindre. Vous vous rappelez, Dominique Desmond, de l'élève Lafitte?
Je m'en souviens très très bien.
Ah bon, d'accord.
J'ai peur.
Donc Nicolas était à ses débuts, ensuite il est, comme on dit, monté à Paris. Ouais. Il a travaillé, nous avons travaillé ensemble pour Étonnez-moi Benoît pendant pas mal d'années, puis après Nicolas est devenu lui-même producteur à France Musique. Et finalement, il est aujourd'hui à Marseille, dans des activités en fait multiples. Parce que là, vous venez de dire que vous étiez chanteur, mais vous êtes aussi directeur de festival, auteur, metteur en scène. Vous aimez monter en scène vous-même. Enfin, vous avez, en fait, vous avez un peu comme les fantaisistes d'opérette, une gamme extrêmement large.
C'est ça. Hein. Ouais, oui, c'est exactement ça. C'est assez difficile quand on me demande ce que je fais dans la vie en ce moment. Mais c'est vrai que, évidemment, j'ai toujours une activité d'auteur, notamment chez Bayard, mon éditeur que j'aime beaucoup.
Et notamment des livres pour la jeunesse qui ont beaucoup de succès. Hein, la musique pour la jeunesse.
Voilà, exactement. C'est vraiment, je crois, ce que je préfère faire, c'est-à-dire de transmettre au jeune public. Alors je fais pas que ça, mais c'est vraiment une grande grande partie de mon activité, et c'est aussi mon activité ici à Marseille. Alors il y a une programmation au musée d'Orsay jeune public, et puis ici à Marseille il y a un festival formidable que j'ai la chance de diriger, enfin dont je suis directeur délégué et co-directeur artistique, puisqu'on est trois directeurs artistiques. Il y a Raoul Lé, compositeur et directeur de l'ensemble Télémaque, et Mathilde Rubinstein. Et c'est donc un festival de musique jeunesse ici à Marseille.
À Marseille, qui va se dérouler du 9 au 19 décembre prochain.
Oui, ça va même commencer le 3 décembre, parce qu'on a un petit peu décalé les dates, mais du 3 au 19 décembre à Marseille, Aix et aux alentours.
Et aux alentours. Alors, qu'est-ce qui se passe au festival Tous en son?
Eh bien, au festival Tous en son, il y a des spectacles pour tous les âges à partir de 2 ans. Cette année, c'est à partir de 2 ans. Je pense que l'an prochain, on commencera même avec des propositions jeunes publics pour les bébés.
Ah oui.
Et jusqu'aux adolescents. Et notre but, vraiment, c'est de montrer les créations à destination du jeune public autour de la musique. Aujourd'hui, il y a vraiment énormément d'artistes qui s'intéressent dans tous les styles et dans tous les domaines au jeune public. C'est plus seulement pour faire de l'éducation artistique et culturelle et se dire, bon, allez, on va aller faire un peu transmission. Non, il y a vraiment une volonté de la part de beaucoup d'artistes de s'adresser au jeune public avec des propositions mises en scène, mises en lumière, avec des belles scénographies, des propositions de très grande qualité où on recherche en même temps une trame narrative, ou s'il n'y a pas une trame narrative, en tout cas une matière qui va faire en sorte qu'on est face à un vrai spectacle.
Et une diversité aussi de registres musicaux est très grande.
Exactement, voilà. Une grande diversité de registres musicaux. Là, pour cette troisième édition du festival, on va être à l'Opéra, par exemple, de Marseille. Alors là, plus dans un parcours pour les familles et aussi pour les associations de visites de l'Opéra, de concerts pédagogiques avec 3 membres de l'Orchestre de Marseille, avec... ils vont assister aussi aux répétitions du Voyage dans la Lune, pour faire une petite conférence pour enfants autour de Funback. Je pense que ça va être très sympa. Et en même temps, on a Le Petit Prince Slam, qui est un bijou de version urbaine, hip-hop du Petit Prince, qui est absolument merveilleuse. Et puis en même temps, on a Tout Neuf, qui est vraiment autour de la voix lyrique pour les tout-petits. Et puis en même temps, on a le Ariol Show avec Marc Boutavant et Emmanuel Guibert au Mucem, qui promet d'être un grand moment. Effectivement, il y a tous les styles. Ouais.
Alors, pour avoir toutes les informations sur Tous en son, festival de musique jeunesse, donc en décembre à Marseille, qu'est-ce qu'on fait, Nicolas Lafitte?
On va sur tousenson.fr. Voilà. Vous avez vraiment toutes les informations. Je voulais juste rajouter que c'est un festival de création, et donc on est aussi là, nous, en tant que structure, même si on est tout jeune, pour aider les artistes de la région à créer leur spectacle jeune public, à trouver des coproductions, à les aider aussi artistiquement. Et là, par exemple, on défend à la fois une création de l'ensemble Télémaque, mais aussi une de Lamine Diane et de la pianiste de jazz Perrine Mansuy, que j'adore, et je suis allé voir hier leur dernier jour de résidence, le Filage. Et ça va être magnifique. Ce sera le 19 décembre.
Voilà. Bah écoutez, je pense que les Marseillais y seront nombreux. Et puisque vous aimez justement ces rencontres de genres musicaux les plus éloignés, moi je vous propose de retrouver Massilia Sound System, qui revisite à sa façon la musique de Vincent Scotto.
Ouais, tu vas te régaler. La rose et la fraîcheur du jasmin.
Tu m'as bien regardé.
Et la fraîcheur du jasmin.
C'est le bon.
c'est donc que j'ose vous tenir là. Mais je ne prends pas de pause, je ne fais pas le malin. J'ai peur que mon cœur explose si vous ne faites rien. Ne croyez pas que j'expose pour rien mon baratin. Mais j'aime les bonnes choses, je ne me refuse rien. Pour ne pas être morose, faisons-nous des câlins. Bref, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse du bien.
Franchement, vous êtes aussi belle que la bonne mère.
Ouais, ça y est, ma pompe
au direct. Oh, vos yeux sont plus bleus que le ciel de Marseille. Je tuerai le temps pour le vivre.
Aïe, mais tu es un peu poète.
Ah, mademoiselle, vous ne pas sortir avec moi.
Où tu vas aller?
Ah, ça me passe la corniche,
frère. Tu as la voiture au moins?
Elle est devant.
Quoi, ce ravin là?
Qui est ravin, ça va, il faut pas que de la figure.
Oh, je vous jure, mademoiselle, je suis votre Marius, vous êtes magique. Tis, vous êtes mon sirop, je suis votre passe. Tis, vous êtes ma girelle, je suis votre clos. Je suis votre chichi, vous êtes ma panisse. Je suis votre loukoum, vous êtes mon amande. Je suis votre tuba, vous êtes mon scaphandre. Je serai la réponse à toutes vos demandes.
La galanterie marseillaise n'est pas une légende.
Ah voilà, j'adore cette chanson, l'original et la reprise d'ailleurs, très, très réussie. Vous avez l'éclat de la rose, hein, une des perles du répertoire marseillais qu'on a mis à l'honneur ce matin dans cette émission de France Musique. Je crois d'ailleurs, Simone Burle, avant de nous quitter, voulait nous dire une petite phrase de Marcel Pagnol au sujet de Vincent Scotto.
Marcel Pagnol lui a rendu hommage, il lui a dit « Quand tu partiras, tu laisseras 100, 200, 4000 chansons, des sentiments à toi, des idées à toi qui feront encore du bien » à des gens qui ne sont pas nés.
Voilà une jolie phrase sur le grand Vincent Scotto. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Simone Burle.
Merci à vous.
Merci Dominique Desmond et Julie Morgan. On va venir vous voir bientôt dans là-haut. Merci Nicolas Lafitte.
Merci Benoît.
Pour tout son son. Et puis Maurice Libéras, j'espère que vous allez pouvoir mener ce beau combat que vous menez pour la musique qu'on aime encore dans toutes les années qui vont venir à l'Opéra et à l'Odéon. Oui.
Et merci à vous Benoît.
Et je vous applaudis parce que je suis très, très heureux de ce magnifique travail. Et je vous propose, avant de nous quitter, d'aller faire encore un petit tour marseillais avec un joli duo d'opérette tout autour de la corniche.
Chez nous dans notre Marseille, quand un homme est amoureux, il ne dit pas bien Mireille, partons bien loin tous les deux. Sur notre vieux port, on est bien plus fort, on ne va jamais chercher d'autres décors. Arrose ou toi non, qui ne dit pas non, on propose sans façon.
Si tu veux tout autour de la corniche, entre l'autre et le ciel bleu, nous ferons le voyage le plus merveilleux. Et malgré que la route soit trop brève, si nos cœurs tendrement portent à nos rêves, nous nous croirons, tu verras, dans un sleeping tout le long de la rivière. Car lorsqu'on s'aime, l'amour extrême, tout paraît plus beau, ici-bas, dans tes bras. La corniche, tous les deux, un tramway comme des riches, nous trouverons au retour notre bonheur, notre jeunesse et notre amour.
Et tout le long du voyage, bien qu'on l'ait fait mille fois, de charmer par le paysage, on s'extasie malgré soi.
Quel ton chatoyant, quel tableau charmant, le soleil est un peintre de grand talent. Quand on est blasé, on plaint les fauchés qui font le voyage à pied.
Si tu veux tout autour de la corniche, tous les deux entrambrés comme des riches, entre l'eau et le ciel. siècle, nous ferons le voyage le plus merveilleux. Et malgré que la route soit trop brève, si nos cœurs tendrement font un beau rêve, nous nous croirons vivera dans un sleeping tout le long de la Riviera. Car lorsqu'on s'aime, l'amour extrême, tout paraît plus beau ici-bas dans tes bras. Si tu veux, tout autour de la corniche, tous les deux, à tramway comme des riches, nous trouverons au retour notre bonheur, notre jeunesse et notre amour.
Tout autour de la corniche par Darcellis et Marguerite Willy. Voilà encore un enregistrement joyeux pour cette émission en direct de Marseille et pour tout ce week-end en direct de Marseille. Mais même si je n'oublie pas, vous savez, on est le 13 novembre aujourd'hui. Et il y a 6 ans exactement, on était à l'antenne en direct dans des circonstances bien, bien plus douloureuse et difficile, on en parle beaucoup en ce moment. C'était le jour des attentats du Bataclan, mais voilà, on a continué de notre côté à essayer de vous apporter un peu de bonheur musical cette semaine. On le fait encore ce week-end avec France Musique, donc je le rappelle, en direct de Marseille. Ça continue à partir de 14h avec Philippe Cassard et jusqu'à tard ce soir avec le jazz, et puis demain, et Judith Chen d'abord, après le jazz d'ailleurs, et puis demain, Laurent Vallière qui sera dans Cabaret, 42e rue. On va se quitter, et ben encore en prévision du prochain grand spectacle de l'Opéra de Marseille, avec quelques petites notes de Monsieur Offenbach. Ce ballet des flocons de neige de Jacques Offenbach, eh bien, nous allons nous quitter. C'était Étonnez-moi Benoît en direct de Marseille. Une émission merci au public préparée par Annie Comier, avec à la technique Benjamin Perru, Romain Luquiens et Olivia Branger. Et puis, bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine. Mon invité, ce sera Philippe Sard pour parler notamment de musique de cinéma avec ce grand compositeur. France Musique, ça continue à Marseille et aussi à Paris, puisque maintenant, à 12h30, nous retournons au studio de la Maison de la Radio en compagnie de Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.